Cinquième et dernière partie, le pays des Camisards. Chapitre 11, à travers la Lozère. Le sentier que j'avais pris, la veille au soir, s'effaça bientôt, et je continuai à grimper sur l'herbe desséchée et rare, en suivant une rangée de bornes semblables à celles qui m'avaient conduit à travers le goulet. Il faisait déjà chaud. J'attachai ma veste sur le paquetage, ne conservant que mon gilet de laine. Modestine aussi était très dispose et prit d'elle-même un petit trot allègre qui faisait danser l'avoine dans la poche de mon vêtement. C'était bien la première fois que pareille chose arrivait. Derrière moi, au nord, la vue sur le Gévaudan devenait à chaque pas plus étendue. C'est à peine si l'on apercevait un arbre ou une maison sur ces montagnes sauvages qui se déployaient au nord, à l'est et à l'ouest, toutes bleues et or dans la brume lumineuse du matin. Une multitude de petits oiseaux voltaient et gazouillaient sur mon chemin. Ils se perchaient sur les bornes de pierre, sautillaient et donnaient des coups de bec dans l'herbe. Je les voyais tournoyer par bandes dans le ciel bleu et faire miroiter leurs ailes frémissantes entre le soleil et moi. Depuis le début de mon ascension, un bruit faible et profond, semblable à celui de la houle lointaine, résonnait à mes oreilles. Parfois, il me semblait que ce devait être la rumeur d'une cascade voisine, ou encore je croyais à l'effet du silence absolu de la montagne sur mon imagination. Tandis que je continuais à avancer, cette rumeur grandissait, et ce fut bientôt comme un bruit d'eau qui chante dans un énorme samovar. En même temps, des bouffées d'air frais m'arrivaient des sommets. À la fin, je compris. Un vent violent soufflait du sud sur le versant opposé des monts Lozère, et chaque pas me rapprochait de la rafale. Bien que j'eusse longtemps attendu ce moment, je fus tout à fait surpris lorsqu'enfin mes regards découvrirent l'horizon par-delà le sommet. Je fis un pas qui ne semblait pas plus décisif que tant d'autres qui l'avaient précédé, et comme l'intrépide Cortés, quand avec ses yeux d'aigle il regarda le Pacifique, je pus croire que j'allais prendre possession d'un nouveau monde. En effet, au lieu de la pente herbeuse que j'avais gravie si longtemps, je contemplais maintenant le ciel vaporeux, et à mes pieds un enchevêtrement de montagnes bleues. Les monts Lozère courent à peu près de l'est à l'ouest, coupant le Gévaudan en deux parties inégales. Leur point culminant, ce pic de Finiels, sur lequel je me trouvais alors, s'élève à plus de 5600 pieds au-dessus du niveau de la mer, et par temps clair la vue s'étend sur tout le bas Languedoc jusqu'à la Méditerranée. J'ai entendu des gens qui prétendaient avoir vu, du haut du pic de Finiels, des voiles blanches qui cinglaient vers Sète et Montpellier. Derrière moi, au nord, s'étendait la région montagneuse que ma route venait de traverser, peuplée d'une race pesante, pays sans vastes forêts, sans pics grandioses, fameux seulement dans le passé par ses loups légendaires. En face de moi, à demi voilé par la brume ensoleillée, s'étendait un nouveau Gévaudan, varié et pittoresque, célèbre par ses luttes épiques. On peut dire que j'étais déjà dans les Cévennes, au Monastier, et tout le long de mon voyage, mais au sens strict du mot, seul le pays accidenté et hérissé qui s'étendait à mes pieds méritait ce titre, et c'est à lui que le réservaient les paysans. Ce sont les Cévennes par excellence, les Cévennes des Cévennes. Dans ce labyrinthe inextricable de montagnes, une guerre de bandits, une guerre de bêtes fauves sévit pendant 2 ans entre le grand roi avec toutes ses troupes et ses maréchaux, d'une part, et quelques milliers de montagnards protestants de l'autre. Il y a 180 ans, les Camisards avaient un de leurs postes jusque sur les monts Lozère, à l'endroit où je me trouvais. Ils avaient une organisation complète, des dépôts d'armes, une hiérarchie militaire et religieuse. Leur lutte était le thème habituel de toutes les conversations de café à Londres. L'Angleterre envoyait des flottes à leur secours. Leurs chefs prophétisaient et tuaient avec des bannières et des tambours au chant de vieux psaumes français. Leurs troupes, parfois, marchaient au grand jour, s'attaquaient aux villes fortifiées, mettaient en déroute les généraux du roi. D'autres fois, profitant de la nuit, ou bien cachés derrière des déguisements, ils s'emparaient de châteaux forts et se vengeaient de la trahison de leurs alliés et de la cruauté de leurs ennemis. Ils étaient sous les ordres du chevaleresque Roland, le comte et seigneur Roland, généralissime des protestants de France. Grave, silencieux, impérieux, un ancien dragon marqué de petites véroles qu'une dame suivait par amour dans ses courses vagabondes. Il y avait Cavalier, un garçon boulanger, doué du génie de la guerre, nommé brigadier des Camisards à 17 ans pour mourir à 55, gouverneur de Jersey, au service de l'Angleterre. Castanet aussi, le chef de partisans fameux par l'ampleur de sa perruque et par son goût pour les controverses théologiques. Étranges généraux, qui se retiraient dans la solitude pour tenir conseil avec le dieu des armées, qui évitaient ou offraient la bataille, postaient des sentinelles ou dormaient dans un camp non gardé, suivant ce que leur avait suggéré l'esprit. Autour d'eux et des autres chefs, c'était la foule des prophètes et des disciples, ardents, patients, infatigables, intrépides à courir dans les montagnes, égayant leur rude vie avec des psaumes, écoutant dévotement des oracles rendus par de jeunes délirants et glissant avec une fureur mystique un grain de blé parmi les balles d'étain dont ils chargeaient leurs mousquets. Le district que j'avais traversé jusque-là était assez terne. Pas d'autre souvenir notable que celui de la bête du Gévaudan qui dévorait les enfants, vrai Napoléon Bonaparte des loups. J'allais aborder maintenant un chapitre romantique, ou plutôt une note en marge de l'histoire du monde. Que restait-il de toute cette poussière d'héroïsme? Je savais que le protestantisme existait encore dans ce quartier général de la résistance protestante. Le curé lui-même me l'avait dit au parloir du monastère. Il me restait à apprendre si c'était une simple survivance ou bien une tradition vibrante et généreuse. J'avais vu dans les Cévennes septentrionales que les habitants avaient des idées religieuses très étroites, qu'ils étaient plus soucieux de faire montre de pitié que de pratiquer la vraie charité. À quoi ne devais-je pas m'attendre dans ce pays de persécutions et de représailles, dans ce pays où la tyrannie de l'Église avait produit la révolte des Camisards et où la crainte des Camisards avait poussé les paysans catholiques à se révolter eux aussi au nom de la loi. Si bien que Camisards et Florentins s'embusquaient pour se tuer réciproquement dans les montagnes. Juste au sommet où je m'étais arrêté pour regarder l'horizon, la série des bornes se terminait brusquement. Mais un peu au-dessous, apparaissait une sorte de sentier qui dévalait le long d'une pente abrupte, tournant en spirale à la façon d'un tire-bouchon. Il menait à une vallée qui serpentait entre des éboulis. Des rochers s'y pressaient, semblables aux chaumes d'un champ moissonné, et dans le fond, c'était comme un tapis de verte prairie. J'allais très vite. La rapidité de la descente, les lacets continuels et brusques, et mon vieil espoir jamais lassé de trouver quelque chose de nouveau dans un pays nouveau, tout contribuait à me donner des ailes. Un peu plus bas commençait un ruisseau, formé des eaux de plusieurs sources, qui couraient bientôt avec un bruit joyeux à travers la montagne. Parfois il traversait le sentier et se déversait par une petite cascade dans une flaque où Modestine se rafraîchissait les pieds. Toute la descente m'apparut comme dans un rêve, tant elle fut vite terminée. À peine avais-je quitté le sommet que déjà la vallée se resserrait autour de mon sentier et que le soleil tapait ferme sur ma tête pendant que je m'enfonçais dans l'atmosphère pesante des basses terres. Le sentier devint une route qui se mit à monter et à descendre en molles ondulations. Je passais devant maintes cabanes, toutes, l'une après l'autre, semblaient désertes. Je n'aperçus pas un être humain, je n'entendis d'autre bruit que celui du ruisseau. Cependant, c'était une région différente de celle que j'avais traversée la veille. La terre y laissait voir son ossature de pierre, vigoureusement étalée au soleil et à l'air libre. Les pentes étaient abruptes et pittoresques. Des chaînes s'accrochaient aux montagnes, robuste et de belle tenue, avec des feuillages abondants que l'automne avait touchés de ses teintes fortes et lumineuses. Çà et là, à droite et à gauche, un autre ruisseau tombait dans une gorge de roches sonores et blanches comme la neige. Au fond de la vallée, la rivière, car le ruisseau, recevant de petits affluents de tous côtés pendant sa course, avait grossi rapidement, la rivière tantôt écumait avec des bonds furieux et tantôt s'apaisait en larges nappes vertes comme la mer, où chatoyaient des reflets mordorés de l'effet le plus enchanteur. Jamais encore, dans aucun pays, je n'ai vu de rivière d'une teinte si changeante, si délicate. Le cristal n'est pas plus clair, les prairies ne sont pas à moitié aussi vertes. À chaque anse tranquille, je rencontrais, je ressentais le désir ardent de retirer mes vêtements chauds et poussiéreux pour baigner mon corps nu dans cette eau fraîche et dans l'air pur de la montagne. Pendant que je marchais, je n'oubliais pas que nous étions un dimanche. La tranquillité et le silence m'en faisaient souvenir à chaque instant, et j'entendais en imagination le bourdonnement des cloches à travers toute l'Europe et le chant des psaumes dans des milliers d'églises. À la fin, le bruit d'une voix humaine frappa mon oreille, un cri d'une modulation étrange, mi-pathétique, mi-railleur. Regardant de l'autre côté de la vallée, j'aperçus un petit gamin dans une prairie, les mains sur les genoux et réduit par la distance à une exiguïté presque comique. Le drôle nous avait repérés, moi et Modestine, descendant la route entre les bois de chêne, et il m'adressait les souhaits de bienvenue de cette nouvelle contrée par ce cri aigu et vibrant. Tous les bruits empruntent à la nature quelque chose de son charme quand on les entend à une certaine distance. Cette voix, ainsi portée par l'air limpide de la montagne à travers toute la verte vallée, sonnait agréablement à mon oreille, elle devenait un élément du paysage, comme les chênes et la rivière elle-même. Peu après, le ruisseau que je suivais se jetait dans le Tarn, au pont de Montvert, de sanglante mémoire.